SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Europa Voice numéro 148, et comme à chaque épisode, je suis avec mon bel ami Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
148, et aujourd'hui on va parler un peu une Madeleine de Proust hein, qu'on a chez nous, hein, la Hongrie. Bien sûr, la Hongrie est la présidence tournante au niveau européen, et on parlera en France du gouvernement Barnier, avec de nouveaux moments importants pour le gouvernement Barnier. Première partie donc de cette Europa Voice, la Hongrie, présidente tournante, je disais, la Hongrie, pas forcément en odeur de sainteté en Europe, mais à la tête, pour l'instant, de certaines institutions.
Alors effectivement, Christophe, pour expliquer un peu à nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, tous les 6 mois, la présidence du Conseil de l'Union européenne tourne et revient à un autre leader d'un État européen. Donc c'est une présidence tournante semestrielle, et depuis début juillet, c'est notre Madeleine de Proust, ouais, Viktor Orban.
Notre vieil ami, Viktor Orban.
Qui assure la présidence. Donc ça a évidemment une saveur un peu particulière quand on sait la relation tendue qu'il existe, non seulement entre les hommes, c'est-à-dire entre Orban et Van der Leyen, mais même entre la Hongrie et les positions de la Hongrie ces dernières années par rapport aux autres pays et autres États membres européens.
Quand on a 6 mois à la tête justement de ces institutions, est-ce qu'on peut vraiment changer les choses? Est-ce qu'on peut changer les choses dans un sens? Est-ce qu'on fait des dégâts? Est-ce qu'on peut avoir peur? Est-ce qu'on doit avoir peur d'une présidence hongroise?
Alors, j'allais dire oui et non. Non, effectivement, Christophe, en 6 mois, on ne va pas changer l'Europe. On s'inscrit dans les politiques européennes, ce qui a été voté au Parlement, dans les grandes orientations de la Commission du moment. Mais on a quand même une manière d'influer, de laisser sa marque. Et d'ailleurs, rappelez-vous-en, Emmanuel Macron, pendant la présidence de la France, a laissé sa marque, comme on dit en anglais, une legacy au niveau européen. Donc pour Viktor Orban, c'est moins, j'allais dire, changer complètement les politiques en Europe que d'appuyer, mettre le curseur là où lui pense que les priorités européennes doivent être, par exemple la défense, par exemple l'immigration et d'une façon moindre l'écologie et le pacte vert.
Mais c'est intéressant parce que ça vient à un moment où les problèmes d'immigration en Europe, hors Europe, reviennent sur le devant de la scène. On l'a vu aussi avec les îles britanniques, énormément de bateaux qui arrivent ou qui tentent de traverser. Il y a vraiment cette crise migratoire qui avait peut-être été un mise de côté, en tout cas au sein de l'information générale européenne, qui redevient sur le devant de la scène. Et les Hongrois n'ont pas forcément la même vision qu'une grosse partie de l'Europe.
Alors il y a le conflit aussi russe, ukrainien en ce moment, qui fait que la position justement sur l'immigration d'Orban est extrêmement particulière, pour ne pas utiliser un autre mot, dans l'Union européenne. En gros, les critiques qui sont formulées à l'égard de Viktor Orban sont de laisser rentrer sur le territoire de l'Union européenne des migrants russes à l'heure actuelle en plein conflit sans forcément faire les vérifications nécessaires. Ça, c'est un point qui est très particulier pour Viktor Orban. Le deuxième point, c'est que pour Viktor Orban, il est, en termes de migration, hors de question de ne pas régler la solution des Balkans et l'intégration de davantage de pays, notamment des Balkans du Sud, dont on a parlé dans un précédent numéro d'Europa Voice, si on veut régler cette question migratoire. Et donc ça, pour répondre en fait à la question précédente, Viktor Orban, son discours, sa politique s'inscrit dans ce qui est fait au niveau européen en termes de migration. D'ailleurs, les lois qui sont dans les tuyaux actuellement, les procédures législatives, mais avec sa marque propre qui est celle, encore une fois, de régler cette question des migrations russes à l'heure du conflit et aussi cette question importante pour Viktor Orban parce qu'aussi il veut imposer son leadership et il sait qu'il aura beaucoup plus de facilité de le faire avec les pays de l'Est de l'Europe qu'avec les pays de l'Ouest. Donc cette question des Balkans du Sud.
Alors, il a pris le pupitre, hein, comme on dit, devant donc, un parterre de ses collègues. Et il a été un petit peu chahuté dernièrement. Alors c'est pas vraiment une surprise. Par contre, il a été chahuté par même van der Leyen qui lui a lancé quelques invectives. L'ambiance n'est pas forcément au beau fixe, on le sait, mais là ça s'est vu.
Alors c'est la beauté aussi, Christophe, de la démocratie et la vitalité de la démocratie européenne à travers ces différentes institutions. Parce que d'abord, au Parlement, la présidente du Parlement, l'italienne Roberta Metsola, a challengé d'une certaine façon Viktor Orban. Elle a rappelé que la présidence hongroise, elle intervenait à un moment où l'Union avait connu, et là je la cite, des avancées significatives. Et donc que la Hongrie devait aussi s'inscrire et inscrire ses politiques et ses orientations politiques dans le cadre de ces avancées significatives en termes de démocratie, d'état de droit et de liberté d'expression. Et ça, c'est une pique absolument pas déguisée à l'encontre de Viktor Orban, qui, on le sait, ces dernières années, a mis à mal l'état de droit, les minorités en Hongrie. Donc, chahuté au niveau de l'institution du Parlement, mais effectivement, vous l'avez aussi mentionné, Christophe, au niveau de la Commission, avec l'animosité qui existe entre Viktor Orban et la présidente de la Commission nouvellement réélue, Ursula von der Leyen, qui a dit que pour elle, une des priorités, en plus de la compétitivité et des migrations, c'était l'Ukraine. Et elle a fortement critiqué la position de la Hongrie à l'égard de la Russie, Christophe, en déplorant qu'un État membre, et là je la cite en particulier, tente toujours d'acheter des combustibles fossiles à la Russie, malgré l'engagement de l'Union européenne d'être indépendante sur le plan énergétique. Fin de la citation. Et donc, voilà, Ursula von der Leyen, encore une fois, sur ce dossier ukrainien, sur lequel Viktor Orban va avoir un impact puisqu'il est à la présidence tournante de l'Union européenne, elle émet des critiques sur le fait qu'il n'est pas aligné avec les décisions qui sont prises au niveau de l'Union européenne. Donc, c'est la vitalité de la démocratie européenne.
On le sait depuis le début. Viktor Orban, c'est un peu l'outcast, on dirait, de tout ça.
Bien sûr, c'est pas une surprise. Après, encore une fois, c'est la beauté de la vitalité de la démocratie en Europe, c'est d'avoir des positions différentes. Après, la question, c'est de savoir quelle est cette marge de manœuvre pour avoir des positions un petit peu différentes. Il n'est pas cohérent que l'Union européenne, par exemple, impose des sanctions si, à la présidence du Conseil, on a un chef d'État qui, encore une fois, ne respecte pas, par exemple, ces questions de boycott ou de sanctions et continue d'acheter ses combustibles russes. Et donc, la présidence hongroise, elle a toute légitimité, puisque chaque pays de l'Union européenne a cette présidence semestrielle. Ouais. Maintenant, c'est aussi un jeu de rapport de force entre les différentes institutions. Pour filer un peu la métaphore avec les institutions françaises, c'est comme si vous aviez d'un côté le gouvernement et le Parlement, et j'allais dire, et même le président de la République, où chacun, de son point de vue, avec son pouvoir, défend un petit peu ses prérogatives, ses priorités. Et puis, c'est le jeu des, comme on dit en anglais, des checks and balances, de s'assurer qu'il n'y ait pas une seule institution qui ait les pleins pouvoirs pour décider.
Ce qui est intéressant aussi, si on se place dans le calendrier, au mois de novembre, il y a une élection très importante à travers l'Atlantique, élection américaine, bien entendu. Orban sera le président au niveau européen quand il y aura un nouveau président élu ou présidente, selon qui gagne cette élection. Ça peut avoir un enjeu aussi, puisque on sait que dans ses amitiés, il est sûrement beaucoup plus proche d'un certain Donald Trump qu'une Kamala Harris. Il peut y avoir quelque chose, même si le temps sera court, hein, on parle de novembre, sa présidence se termine fin décembre. Ça peut y avoir un enjeu là ou pas?
Mais il peut y avoir un énorme enjeu, hein, de plusieurs points de vue. D'abord, il se passe beaucoup de choses avec les voisins de l'Union européenne. En ce moment, Moscou et Pékin font des exercices coordonnés de défense dans le Pacifique.
Ouais, ça fait pas peur, ça.
cette élection aura évidemment une influence, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump qui est élu, pour justement peser face à ces nouveaux mastodontes. Et pareil pour l'Union européenne. Donc, effectivement, hasard du calendrier, mais la présidence tournante de ce Conseil arrive à un moment où il y a une instabilité au niveau de la politique américaine avec une nouvelle élection. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais j'allais dire, même au niveau de la France, le fait d'avoir en ce moment un président de droite, finalement, donne aussi peut-être plus de gages à Emmanuel Macron de pouvoir ajuster ses politiques en fonction... Quid de Kamala Harris, quid de Donald Trump, par opposition à avoir, par exemple, une présidence ou un gouvernement, de gauche ou d'extrême gauche. Donc, Oui, ça a une influence, mais ça a une influence, comme vous l'avez dit, limitée, parce qu'un autre pays prendra la prochaine présidence tournante de l'Union européenne.
Absolument. Voilà, c'était la première partie de cette Europa Voice. On fait une courte pause. On se retrouve dans quelques instants.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Deuxième partie d'Europa Voice, toujours avec Nathanaël Bloch. Cette fois-ci, Nathanaël, on va parler en France, on va direction en France, le gouvernement Barnier. Alors, il s'est passé pas mal de choses, mine de rien, au niveau du Parlement et de l'Assemblée nationale. Il y a eu le discours de politique générale, il y a eu les réponses. Enfin, on en est où avec le gouvernement Barnier? Parce qu'on avait peur au tout départ que ça pouvait exploser à n'importe quel moment. Ça peut toujours exploser à n'importe quel moment. Pour l'instant, ça tient. Et il y a certaines lignes qui divergent quand même avec le président. Ça commence à être assez clair.
Il y a des critiques déjà à l'encontre de Michel Barnier de par l'ancien Premier ministre, oui. Gabriel Attal. Ça a été partagé cette semaine. La nouvelle, j'allais dire intéressante de ces derniers jours, c'est que le gouvernement Barnier déjà survit à la première motion de censure. Première motion de censure parce que ce ne sera sûrement pas la dernière. Mais
vous croyez
déjà, il y avait cette crainte, en fait, Christophe, oui. de l'instabilité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chacun pour l'instant est dans son rôle. C'est-à-dire que la motion de censure vient de la gauche élargie, des Verts aux communistes, au Parti socialiste, à LFI, et que les faiseurs de roi, à l'heure actuelle, c'est encore le Rassemblement national qui n'a pas dit « bien sûr, je vote pour ou contre Michel Barnier, je m'abstiens, j'étais presque prêt à voter cette motion de censure, mais on va laisser, comme on dit dans La Vérité si je mens, sa chance au produit,
ouais.
et on va laisser cette et on va s'abstenir. Mais donc pour l'instant, voilà, chacun est sur ses positions et ça va être intéressant de voir comment, avec notamment les discussions budgétaires, j'ai peu d'espoir que la position de la gauche évolue vraiment, surtout dans le cadre dogmatique d'un leadership de la France insoumise, mais intéressant de voir comment le Rassemblement national va évoluer sur cette position et continuer ou pas à jouer les faiseurs de roi.
Parce que le Rassemblement national aussi a une situation au niveau européen. Il y a le cas des attachés parlementaires européens qui auraient ou pas été payés pour faire d'autres activités au sein du parti. Ça, c'est aussi quelque chose qui préoccupe ou qui occupe en tout cas les instances du RN et peut-être ça influe sur le fait qu'il reste un petit peu tranquille de l'autre côté de l'hémicycle en attendant que le vent passe ou qu'au moins on ait une décision sur cette procédure.
Oui, ça les occupe, mais ça a aussi occupé il y a quelques années le Modem et le Centre en France. Je ne veux pas dire que tomber dans le populisme et dire que c'est monnaie courante, mais je ne pense pas que ce soit ça qui guide leur décision quant à la motion de censure ou pas. Évidemment, ça n'arrive jamais à un moment propice. Mais voilà, heureusement ou malheureusement, ça va passer, il va y avoir des condamnations ou pas. Mais ce n'est pas vraiment, j'allais dire, la priorité de l'agenda et ce qui fait que le Rassemblement national se mette ou pas en retrait à l'heure actuelle.
D'accord, alors quelles sont les prochaines échéances pour le gouvernement Barnier? Parce qu'il y a quand même, on le sait, énormément de pain sur la planche. Il y a eu le discours d'intention générale, bon, il y a le budget, on en est où? Quelles sont les prochaines échéances pour le gouvernement?
Alors, je dirais qu'il y a deux thématiques vraiment importantes pour Michel Barnier, deux thématiques, ce qui nous intéresse ici à Europa Voice, lesquelles l'Europe attend de Michel Barnier. La première thématique, c'est l'immigration, et la deuxième thématique, c'est le budget. Alors, l'immigration, ça s'inscrit aussi dans le cadre de ce qu'est en train de faire l'Allemagne, c'est-à-dire de remettre des contrôles à ses frontières après l'épisode terroriste d'il y a quelques semaines. Encore une fois, c'est prévu, on l'avait vu dans ce numéro d'Europa Voice pour SBS, c'est des choses qui sont prévues dans les accords de Schengen pour une durée limitée, c'est jusqu'en mai prochain potentiellement pour l'Allemagne, mais évidemment ça met aussi un peu à mal l'idéal européen et finalement c'est mettre un petit peu un sparadrap sur les bobos pas encore résolus de l'Europe en niveau des gestions de l'immigration. Et d'ailleurs, ça fait la boucle avec cette première partie d'Europa Voice et ce qui se passe à l'heure actuelle avec la présidence Orban et les questions de migration russe. Donc ça, c'est la première question. C'est l'Europe va aussi attendre de la part de Michel Barnier de se positionner sur ces questions de migration. Elle s'attend aussi à ça parce que Michel Barnier, c'est aussi le monsieur Brexit. Mm-hmm. C'est le monsieur qui a été capable de mettre un cadre législatif au mouvement de biens et de personnes entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
C'est vrai, si on revient en arrière, on l'avait débattu dans plusieurs Europa Voice, mais il est vu comme quelqu'un qui est capable de trouver une solution à un problème qui n'en a pas forcément une évidente. Ça, il l'a prouvé plusieurs fois, pas simplement autour du Brexit, c'est quelque chose qu'il a fait une grosse partie de sa vie. Donc, il y a gros espoir autour d'avoir lui comme Premier ministre pour différents problèmes, de trouver peut-être une solution qui n'est pas forcément si évidente que ça.
C'est un signal fort pour l'Europe, parce que rappelons-le, hein, Michel Barnier, il a été vice-président du Parti populaire européen, il a été deux fois commissaire européen, il a été quatre fois ministre en France. Donc c'est quelqu'un qui est, et on l'avait dit hein, dans Europa, c'est quelqu'un qui est plus connu et peut-être même plus respecté à l'échelle européenne qu'il ne l'est à l'échelle nationale. Et donc effectivement, pour l'Union européenne, c'est quelqu'un qui est capable non seulement de comprendre comment les institutions marchent, mais aussi qui est capable de trouver et d'amener des solutions à des problématiques européennes pour la France.
Ouais, et il y a la deuxième question, c'est le budget. On en a parlé. En France, ça reste un budget compliqué parce que on est dans l'après-Covid et qu'il a fallu gérer l'impact que le Covid a pu avoir au niveau des budgets Covid, mais les budgets post-Covid également. Aujourd'hui, Michel Barnier a dit qu'il se retrouvait quand même avec une dette incroyablement énorme et que le but serait quand même de la réduire. Il n'y a pas que lui qui dit ça. Au niveau européen, la France sort du cadre. La France risque d'être pénalisée, va être pénalisée parce qu'elle sort du cadre. C'est quoi la mission aujourd'hui du gouvernement Barnier sur ce point de vue-là ?
La première mission, j'allais dire, Christophe, c'est de répondre à la dégradation de la note de la dette française qui est arrivée il y a quelques mois. Parce que, encore une fois, et vous l'avez mentionné, le ratio de la dette public en France est le plus élevé de la zone euro derrière l'Italie et la Grèce.
Ça, c'est pas le genre de badge qu'on veut.
Non, c'est pas le genre de badge qu'on veut. Et donc, c'est aussi rassurer les marchés, rassurer Bruxelles sur ça. Ça, je pense que c'est vraiment la première mission de Michel Barnier, c'est de faire en sorte que le prochain budget de la France non seulement réponde aux exigences du pays, mais réponde aussi aux exigences de Bruxelles et des marchés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement de baisser en termes de chiffres, en termes de pourcentage, ce déficit budgétaire, mais c'est de ne pas pénaliser non plus la croissance en France. Parce que ces dernières années, et ça c'est à mettre au crédit du président Macron, les investissements sont revenus en France.
Mais il y a un effet bénéfique du Brexit aussi.
Voilà, il y a un effet bénéfique du Brexit.
La France est un des pays qui a quand même bénéficié de cet effet Brexit.
Tout à fait, Christophe. Elle a bénéficié à la fois de l'effet Brexit, elle a bénéficié de la solidité européenne au moment du Covid, et elle a bénéficié encore une fois des politiques incitatives d'Emmanuel Macron, et notamment lors de son premier mandat, pour attirer les investissements en France et pour faire de Paris aussi une place financière, encore une fois, dans le cadre de ce Brexit, où il fallait se décider, est-ce qu'on s'installe à Rome, à Francfort, à Berlin ou à Paris. Et donc, Michel Barnier, il ne veut pas brider cette croissance-là, il ne veut pas brider cette attractivité économique. Mais il va devoir prendre des mesures. Alors, il a demandé un peu plus de temps à Bruxelles. Mmh. Ce qui est drôle, j'ai lu chez l'un de nos confrères, c'est que Juncker avait déjà, l'ancien président de la Commission, avait déjà dit, à propos d'accorder un délai un peu supplémentaire à la France, dit « oui, on peut le faire parce que c'est la France ». Donc, on a l'impression que, au-delà de l'exception culturelle française, même au niveau du déficit de la dette, il y a une espèce d'exception française, ouais. Et qu'il faut accorder un peu plus de temps. Mais c'est ça vraiment le défi. Et puis,
on ne sait pas l'abri en France, hein, soit les choses comme ça. Hein.
On sait négocier. Après, et c'est là où ça va être intéressant aussi, parce que c'est un mix de politique interne et de politique européenne, c'est quel jeu va jouer le Rassemblement national.
Mmh. Encore eux. Hein.
Voilà, en faiseur de roi. Parce qu'actuellement, ils ont des exigences qui ne sont pas forcément compatibles justement avec les solutions que Michel Barnier doit apporter au niveau de l'Union européenne. Donc, quel jeu ils vont jouer pour permettre à la fois à la France de se mettre sur les tracks, mais aussi de dire attention, si on ne va pas dans ce sens-là, nous, Rassemblement national, on sera avec l'extrême gauche pour voter la prochaine motion de censure. Et ça va être extrêmement intéressant à suivre, de voir si le gouvernement Barnier sera capable d'apporter ces changements pour rassurer les marchés, pour rassurer Bruxelles, et en même temps garder cette confiance de l'Assemblée, parce que le pire qui puisse arriver, c'est une nouvelle dissolution, enfin plutôt une nouvelle motion de censure au Parlement. Et donc là, alors là, les marchés et Bruxelles, ce serait un affolement général, et c'est absolument pas ce que le président ou ce que Michel Barnier souhaiterait dans les prochains mois.
Alors, c'est pas ce qu'on veut non plus à Europa Voice, mais on a tellement, tellement, tellement de grains à moudre encore dans les épisodes à venir que vraiment, on peut presque s'en lécher les babines en tant qu'analyse politique. Merci Nathanaël.
Merci beaucoup Christophe.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.